On va lire simplement deux versets dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4. On va lire les versets 2 et 3. Aïra, vous pourrez supporter ? Limite. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Et c'est le verset qui suit qui est au centre. Priez également pour nous. Que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère du Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. Donc vous vous souvenez tous, bien entendu, qu'en avril 2012, j'avais abordé 5 points essentiels à mettre en pratique pour développer sa vie de prière. Vous en souvenez ? Je rappelle rapidement ces 5 points. Donc, être discipliné, entrer dans la présence de Dieu, être à l'écoute de Dieu, s'attendre à une réponse de Dieu, et enfin, persévérer. Dans la vie d'un chrétien, comme dans la vie d'une église, la prière est indispensable, car les fruits spirituels sont liés, vraiment liés, intimement liés à une prière intense. Alors aujourd'hui, le texte nous conduit à parler d'un sujet important, donc c'est le soutien à apporter aux serviteurs de Dieu. Et vous avez remarqué tout de suite que nous restons vraiment dans le thème de la prière. On le voit dans le court passage que je vous ai lu. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Tout de suite après, priez également pour nous. Si dans ses lettres, Paul insiste tant sur la persévérance dont les chrétiens doivent faire preuve en ce qui concerne la prière, c'est qu'il connaît bien la nature humaine et sa tendance à la négligence et au laisser-aller. En effet, nous sommes tous capables de nous enthousiasmer sur une courte durée. Mais dès que les choses doivent se prolonger dans le temps, le premier enthousiasme se refroidit souvent. Et malheureusement, la prière n'échappe pas à cette tendance. Alors, pour lutter contre cette tendance bien humaine, Paul nous exhorte en employant deux verbes forts, persévérer et veiller. Tout le monde comprend ce que signifie persévérer. Par contre, veiller demande quelques explications. Le premier sens de ce verbe, c'est se priver de sommeil. Et ce premier sens a donné un sens figuré, être vigilant, lutter contre la torpeur et lutter contre la négligence. Dans le jardin de Gethsémani, voyant que ses disciples n'avaient pas résisté au sommeil, alors que Jésus était sur le point de se faire arrêter, et Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Ça, c'est dans Matthieu 26, 41. Jésus ne leur demande pas de résister au sommeil physique, mais au sommeil spirituel. Il y a un grave danger à négliger la prière. Le danger dont Jésus parle est à prendre sérieusement en considération, puisque ce danger, c'est de tomber dans la tentation. Ce n'est pas comme prendre deux morceaux de chocolat l'un à la suite de l'autre. Souvenons-nous aussi des 5 vierges folles qui ont négligé de prendre de l'huile pour leur lampe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles ont été négligentes. Elles n'ont pas été vigilantes spirituellement. Et lorsqu'elles arrivent là où se tient le festin de noces, elles trouvent la porte fermée. Et elles entendent une phrase terrible que leur dit l'époux. En vérité, je ne vous connais pas. Elles avaient l'impression de connaître l'époux. Elles entendent cette phrase, en vérité, je ne vous connais pas. Alors, comprenant bien le sens de cette parabole et de cette phrase terrible, elle ne nous est pas donnée pour mettre l'accent sur la condamnation, mais pour nous exhorter à calquer notre vie spirituelle sur la vie des vierges sages qui, elles, avaient veillé et elles avaient pris de l'huile pour leur lampe, de façon à ce que leur lampe ne s'éteigne pas. La prière persévérante, c'est ce qui permet aux chrétiens et à l'Église de ne pas s'endormir spirituellement. C'est cette idée que Paul veut nous faire passer quand il dit « par elle, veillez dans l'action de grâce », c'est-à-dire par la prière, restez vigilants et rendez gloire à Dieu pour toutes ses grâces, la grâce de pouvoir lui parler, la grâce de voir des exaucements, la grâce d'être pardonné, la grâce de se savoir aimé, la grâce de se savoir sauvé. Alors, venons-en maintenant à cette prière pour les serviteurs de Dieu. Donc, sans perdre de vue cette exhortation à prier avec persévérance, regardons maintenant ce que Paul demande à ses correspondants. Priez également pour nous, c'est-à-dire pour Timothée et moi, afin que Dieu nous ouvre une porte et que la parole, pour la parole, et que je dise le mystère de Christ. Et quand on regarde, quand on lit les épîtres, on voit que ce n'est pas la première fois que Paul demande ça aussi. On voit ça dans Éphésiens 6, 19, où Paul fait exactement la même demande, « Priez pour nous, priez pour moi ». Qui est Paul ? Paul, c'est un géant de la foi. Un homme rempli de la puissance de l'Esprit-Saint. Le Seigneur s'est servi de lui pour guérir un infirme. Acte 14, 10. Pour faire des miracles. Acte 19, 11. Pour ressusciter un mort. Acte 20, 11. Mais aussi et surtout pour amener à Christ des milliers d'hommes d'origine juive et païenne dans tous les pays du bassin méditerranéen. Voilà qui est cet homme. Et c'est cet homme qui demande la prière des membres des églises. Je voudrais insister sur un point. Cette demande de Paul, « Priez aussi pour moi », ce n'est pas une coquetterie verbale. Ce n'est pas pour faire plaisir à ses correspondants. Il en a réellement besoin. Cela veut dire que la prière de l'Église, elle est très importante. Elle est indispensable. Et ceci devrait renforcer notre volonté de prier pour nos pasteurs, pour que Dieu leur ouvre aussi des portes pour la parole. Mais prier aussi pour ceux qui exercent un ministère parmi nous, ministère de catéchète, ministère de conseiller, ministère de visiteur, ministère d'évangéliste. Dans l'esprit de Paul, la prière qu'il demande pour que son ministère porte des fruits doit avoir un caractère persévérant. Pourquoi ? Parce que celui qui annonce la parole, il est en première ligne d'un combat dont l'enjeu est le salut des âmes. Lorsque quelqu'un, pasteur ou laïc, rempli de l'esprit, a le souci du salut des âmes, et annonce la parole dans ce but, qu'est-ce qu'il trouve en face de lui? Il trouve en face de lui des puissances spirituelles mauvaises. Vous avez la liste dans Ephésiens 6, 12. Et ces puissances vont vouloir s'opposer à lui par tous les moyens. Par qui passe-t-elle cette opposition? Par des hommes. Souvent par des hommes hors de l'Église. Mais parfois aussi des hommes dans l'Église. Souvenons-nous de l'emprisonnement de Pierre par Hérode. Depuis la Pentecôte, l'Évangile se répandait très rapidement et cela ne plaisait pas à de nombreux Juifs. Des croyants, comme Pierre. Et c'est pour cela que Pierre se retrouve en prison. Le texte est sans ambiguïté. Écoutez-le. Le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Écoutez la suite. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. Ce sont des croyants qui étaient heureux que Pilate commette ses actes. Mais le texte aussi, et c'est ça qui est important pour nous, le texte nous montre aussi la puissance de la prière. Acte 12, 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Sans relâche, la prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Et alors, que s'est-il passé? Pierre a été libéré par un ange qui a ouvert les portes de la prison. Acte 12, 10. Cet épisode a beaucoup à nous apprendre. Les chrétiens de cette église ont opposé la puissance de la prière à la puissance des ténèbres. La prière est une arme puissante, capable de vaincre l'ennemi. Cet ennemi qui s'oppose à ce que l'Évangile se répande. Méditons ce que dit Paul dans Ephésiens 6, 11. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Et parmi les armes que cite Paul, il y a quoi? La prière. Je connais une église, je pense que c'est toujours le cas, qui en plus d'un groupe de prière, comme nous en avons une, a un groupe d'intercesseurs qui prie exclusivement pour le pasteur et sa famille, dans le but qu'ils soient protégés de toutes les attaques de l'ennemi et qu'ils reçoivent tous les dons pour que l'annonce de l'Évangile porte des fruits. La raison d'être de l'Église en général et de notre Église en particulier, c'est d'annoncer l'Évangile. Une des armes spirituelles essentielles pour que l'Église remplisse cette mission, c'est la prière persévérante. Plus nous serons nombreux et persévérants dans cette prière, plus abondante sera la moisson pour notre Église, pour l'Église. Notre pasteur, les membres du Conseil presbytéral et tous ceux qui exercent un ministère parmi nous ont un besoin impérieux de notre prière persévérante, exactement au même titre que Paul, pour être les serviteurs dont cette Église a besoin. Notre prière n'est pas facultative. Vous savez, quand on achète une voiture, il y a plein d'options. Eh bien, pour une église, la prière, c'est une option qu'on ne laisse jamais de côté. Au contraire, c'est la première qu'on doit choisir. Notre prière n'est pas facultative, elle est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'elle soude, dans un même but, les individus qui composent notre communauté, même lorsque nous sommes chacun chez nous. Si nous prions pour que les responsables soient remplis de l'esprit, soient remplis de sagesse, soient remplis de discernement, nous sommes soudés, nous sommes unis ensemble, et cette unité dans l'esprit est une force capable de vaincre les oppositions, qui, soyons-en sûrs, sont à l'œuvre sous différentes formes. Pour nous encourager à prier avec persévérance, je vous donne ce témoignage d'un pasteur coréen qui s'appelle Yoongi Cho. Voilà ce qu'il a écrit. Lorsque j'ai commencé mon ministère en 1958, je suis allé à Daejeon-dong, une région pauvre de la périphérie de Séoul. J'ai dressé une tente de l'armée américaine et j'ai commencé à prêcher. Je me souviens bien d'avoir vécu dans cette tente et passé des nuits dans la prière. Des nuits. Pendant nos hivers coréens si rigoureux, je me couvrais de couvertures et passais de nombreuses heures à prier, allongé par terre près de la chaire. Peu de temps après, quelques membres de ma petite assemblée sont venus prier avec moi. Bientôt, plus de 50 personnes se rassemblaient pour passer des nuits entières en prière. Voilà comment j'ai commencé mon ministère, écrit-il. Soyons sûrs, frères et sœurs, que ces 50 personnes qui sont venues, qui se sont joints à la prière de ce pasteur, priaient aussi pour leur pasteur. Fin 85, c'est-à-dire 27 ans après, son église était plus nombreuse que la ville de Clermont-Ferrand et tous les alentours. Un autre témoignage que je n'ai pas écrit, mais qui me vient comme ça, c'est ce qui se passe en Colombie, où une dizaine de personnes ont commencé à prier, et quelques années après, disons 15 ans après, ils ont acheté un temple un petit peu plus grand que celui-ci, 10 000 places. Tous les dimanches, il y a 5 cultes et les places sont remplies. La prière, comme Yoongi Cho, comme Paul. En avant-propos de son livre, Yoongi Cho écrit dans la prière Clé du réveil, c'est le titre. Je suis convaincu que le réveil est possible partout où des personnes se consacrent à la prière. Paul le dit aussi. Alors, pourquoi partir ? Si l'Esprit Saint n'était pas intervenu, Seigneur, pour nous faire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, sans doute nous ne serions pas là ce matin. Si l'Esprit Saint n'intervient pas, Seigneur, pour nous convaincre que la prière est une arme décisive pour que nous grandissions dans la foi personnellement, mais aussi pour que notre Église grandisse, pour que l'Église grandisse. Alors nous nous contenterons de prier à la sauvette, parce qu'on a été éduqués, il faut prier. Mais ce que Paul demande, Seigneur, c'est autre chose. C'est la prière persévérante. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. De la même façon que tu nous as fait ce cadeau magnifique de la foi, fais-nous ce cadeau, Seigneur, de désirer prier comme tu priais toi-même et comme Paul nous le demande. Ce n'est pas un homme qui le demande, c'est l'Esprit Saint.